Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons voir une fonctionnalité des grilles cristallines, car si elles n'étaient pas là, eh bien, il n'y aurait en fait aucun mode de transport, aussi bien au niveau dimensionnel que interdimensionnel. Donc, nous allons voir ça un tout petit peu plus dans le détail. Comprenez donc que, je rappelle que la grille cristalline, c'est comme une peau, hein, et que, en fait, un vortex s'apparente comme si c'était le pore, vous savez, le pore, P-O-R-E, de la peau. Hein. Vous savez que nous avons des milliers, hein, pour ne pas dire des millions ou plus, de pores dans lesquels, on va dire, la peau peut, on va dire, respirer entre l'intérieur et l'extérieur. Eh bien, on peut dire que les vortex sont les pores de la peau de Maman Urantia Gaïa. Voilà pourquoi elle respire à travers ses pores. Donc, ses pores sont en fait une énergie entre un haut et en bas. Et un bas. Et donc c'est la grille cristalline qui, on va dire, va pas distribuer, mais va pouvoir alimenter ces différents vortex. Voilà pourquoi, aux endroits où, on va dire, la grille cristalline est trouée, eh bien ça veut dire qu'en fait les vortex ont disparu. C'est-à-dire que par exemple, les infrastructures faites par la civilisation humaine, par un certain nombre de choses, eh bien, on a coupé la circulation de la grille, qui a fait que progressivement, les vortex se sont éteints, et comme ils se sont éteints, la grille cristalline a, on va dire, s'est trouée à cet endroit-là, un petit peu comme on pourrait dire, par exemple, la couche d'ozone, puisqu'on pourrait considérer qu'effectivement, la Terre est une grosse pomme, hein, avec un champ magnétique, effectivement, hein, vous savez, un bouclier magnétique, et on a vu que la couche d'ozone, par exemple, dans la sphère australe, c'est-à-dire du côté de l'Australie, là-bas, eh bien, il y a un très gros trou dans la couche d'ozone. Eh bien, c'est ni plus ni moins, on va dire, une surface à une altitude concernant une énergie spécifique qui est en train de partir. Alors, on peut dire que les scientifiques ont un petit peu raison. Je dis un petit peu, hein, parce qu'ils n'ont pas tout compris, mais ils ont un petit peu raison en disant que c'est quand même nos conneries, on va dire, du côté de chez nous, qui a introduit la destruction de cette couche d'ozone. C'est vrai dans un sens, mais ça ne l'est pas complètement dans un autre. Hein, mais bon, on ne va pas aborder le sujet aujourd'hui, mais vous comprenez que si on ôte la peau de la pomme, eh bien la pomme va pourrir beaucoup plus vite. Bref, en clair, eh bien, en faisant un trou dans la couche d'ozone, ni plus ni moins, eh bien, on permet aux rayons galactiques de pouvoir nous pénétrer et donc de faire pourrir, on va dire, l'ombre qui est à l'intérieur. Hein. Vous voyez, hein, c'est donc quelque part un avantage et un inconvénient, mais grosso modo, ça correspond à un des voiles, hein, qu'on pourrait presque dire, d'enfermement de la planète qui est en train d'être virée. Donc, ce qui est sombre à l'intérieur va pourrir, entre guillemets. Hein. Donc, c'est pour ça que la 3D est vouée à mourir. Bref, c'était un petit détail, une aparté, comme on dit. Alors, voilà, donc ici, ce sont des images relativement, on va dire, classiques pour les gens qui lisent mon blog. Maintenant, eh bien, nous allons voir comment se passe le mouvement. Hein, c'est-à-dire qu'on a bien sûr un mouvement qui se crée. Hein, et donc ici, c'est comme si vous aviez un cyclone. Hein, vous savez, vous avez une spirale en haut, qui tourne. Et puis, ça a créé par rapport au sol, on va dire, une espèce de colonne. Hein, dans lequel il y a une tornade, un ouragan, ce que vous voulez. Donc c'est un mouvement qui est introduit par une différence de température principalement. Donc selon le cas, il faut déjà comprendre qu'un vortex, c'est quelque chose de vivant. Ça veut dire que par exemple, ici j'ai représenté la couleur bleue en disant c'est froid et la couleur rouge en disant c'est chaud, et bien on va dire que par exemple c'est pendant la journée où le soleil, on va dire, tape. Donc la température de l'air est un peu plus importante, admettons il fait 30 degrés, elle est plus importante que celle du sol qui est à 12-15 degrés. Et donc ça va créer un mouvement, hein, ça va créer un mouvement, donc le vortex vit au rythme, on va dire, de la température. En clair, il y a plusieurs paramètres, il n'y a pas que la température, il y a aussi l'hygrométrie, il y a d'autres paramètres, mais globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un vortex, se réveille le matin, est au maximum, on va dire, quand la différence de température est la plus grande, et puis bah, va s'éteindre avec le soleil, ni plus ni moins. C'est-à-dire que dès que la température va descendre, et on va dire s'inverser, ça ne va pas inverser le sens de rotation, on va dire, du vortex, parce qu'il y a d'autres paramètres, comme je vous le disais, mais ça va en diminuer la puissance. En clair, eh bien, un vortex n'est pas son optimum à toutes les journées, 24 heures sur 24. Ça n'existe pas. Donc ne voyez pas un vortex comme un robinet qu'on ouvre et que bah, le débit est toujours identique. C'est absolument faux. Hein? D'ailleurs, si un jour vous avez eu, on va dire, la possibilité ou l'envie, on va dire, d'activer un vortex, on ne l'active jamais en fait. Dans la réalité, on ne fait qu'agrandir ou rétrécir enfin, sa puissance, mais il est toujours actif. Sauf s'il n'est pas actif, c'est qu'il a été tué dans le sens où ce qu'il raccordait à la grille cristalline a été détruite. Hein. C'est-à-dire que les courants d'énergie hein, qui lui permettent à cette intersection de pouvoir faire, on va dire, ce tourbillon, eh bien, ça a été coupé. Et quand ça a été coupé, il s'éteint. Et quand il s'éteint, bah, la grille cristalline, elle a un trou. Hein, c'est-à-dire qu'elle n'existe plus à cet endroit-là. Donc ici, eh bien, j'ai représenté comme ça. Donc comprenez que déjà un vortex, ça vit, ça respire. Parce que Maman Urantia Gaïa respire à travers tous les vortex. Donc elle sait ce qui se passe dehors parce que bah, ça rentre. Et puis bah, aussi en même temps, bon, fait, bon, bref, elle sait tout ce qui se passe dehors. Maintenant, eh bien, je vais montrer la respiration. Enfin, on va dire toujours sous un autre angle, hein, qui est, voilà, c'est-à-dire que là, j'ai fait tourner dans ce sens-là, hein, par exemple. Donc, on pourrait le représenter, bien sûr, dans ce sens-là. C'est la même chose, hein, simplement, c'est habillé. Voilà. Alors maintenant, eh bien, pour aller un tout petit peu plus loin par rapport à ça, eh bien, nous, j'ai pris une comparaison par rapport, on va dire, à un pignon. Parce que vous pouvez, bien sûr, imaginer que ceci c'est comme un pignon. Alors bon, j'ai pris un pignon hélicoïdal, c'est-à-dire avec des engrenages qui sont en forme d'hélice, pour représenter par rapport à ça. Mais j'aurais pu prendre un pignon, ce qu'on appelle conique, avec des angles droits, c'est-à-dire comment dire, des arêtes de pignon qui sont droits. Mais bon, c'était pour le look, hein, parce que bon, on verra que plus tard, ça peut induire, on va dire, des raisonnements qui sont faux, mais bon, chaque chose en son temps. Donc d'abord ici, bah, on va appeler ça donc un vortex. Hein. Donc c'est la représentation symbolique pour moi d'un vortex. Donc c'est un pignon qui est posé à plat où l'axe est vertical. Donc je représente l'axe. Voilà. Donc l'axe du pignon est bien vertical. Et donc la rotation est bien horizontale. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'un vortex est toujours perpendiculaire, on va dire, au centre de la Terre. Ça, c'est une chose. C'est comme les pores de la peau, ils sont toujours perpendiculaires par rapport au milieu de votre peau. Enfin, de votre épaisseur, entre guillemets. Sinon, on aura un problème. Ça, c'est sûr. Donc, voilà ce qu'il faut comprendre. Donc maintenant, eh ben, on va aller un tout petit peu plus loin, si vous voulez, parce que j'ai représenté cet axe vers le haut, mais c'est un axe. Hein, mais après, il y a des directions. L'axe ça peut aller vers le haut comme ça peut aller vers le bas. Et vous comprenez que, bon, en physique, on appelle ça le spin, c'est-à-dire l'orientation magnétique hein, due à un mouvement, hein, de quelque chose qui tourne. Donc si je prends par exemple cette option, hein, c'est-à-dire que si je prends l'option d'extrogyre, c'est-à-dire que par rapport à l'axe, quand on se positionne, eh bien il tourne à droite, hein, le pignon tourne à droite. Donc dans ce cas-là, eh bien, le spin est dirigé vers le haut. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que quand ça va tourner dans ce sens-là? Eh bien, ça veut dire qu'il y a une rotation. Alors, vous savez qu'il y a la rotation, on va dire, involuante et la rotation évoluante. En fait, dans la réalité, c'est dans quel sens va se diriger l'énergie. C'est-à-dire que est-ce que c'est une énergie qui va descendre à l'intérieur de Maman Urantia ou est-ce que c'est une énergie de Maman Urantia qui va aller baigner l'extérieur? Car vous le savez bien qu'il y a une respiration dans les deux sens. Votre peau respire bien dans les deux sens. Elle n'est pas seulement de l'intérieur vers l'extérieur, mais elle est aussi de l'extérieur vers l'intérieur. D'où l'existence de vortex, on va dire. L'évogir, c'est-à-dire, bah, c'est le mouvement inverse, ça va dans l'autre sens, c'est-à-dire ça va tourner vers la gauche, par exemple. Bon, enfin bref, on pourra dire lévogyre ou dextrogyre dans ce que vous voulez, c'est-à-dire ça se tourne dans un sens, ça tourne vers l'autre, tout dépend par dans quel regard on contourne. Parce que si je regarde du bas vers le haut, je suis dextrogyre, mais si je regarde du haut vers le bas, d'après vous ici, je tourne à droite? Non, je tourne à gauche. Donc on peut dire que le lévogyre, le dextrogyre est toujours par rapport à comment on regarde. Donc il est évident que quand vous êtes sur la Terre, entre guillemets, hein, c'est-à-dire vous seriez au milieu du vortex, là, à la hauteur du milieu là, bah, c'est sûr vous regardez toujours vers le ciel. Alors bah, si ça tourne vers la droite, hein, vous allez dire il est dextrogyre, et puis bah, s'il tourne vers la gauche, vous allez dire bah, il tourne lévogyre. Mais tout dépend par où vous vous placez. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ça, c'est relatif par rapport aux références que vous prenez. Alors ensuite, il y a bon, d'autres phénomènes, puisque bon, ça c'est un phénomène, on va dire, rotatif, mais il y a aussi d'autres phénomènes, parce que il faut savoir que les vortex sont souvent, ben, il y a beaucoup, beaucoup de cas. Hein. Par exemple, si vous avez un vortex dextrogyre, vous aurez un lévogyre qui est pas loin, c'est-à-dire un frère jumeau, parce que à eux deux, ils fabriquent, entre guillemets, un autre vortex, beaucoup plus grand. Vous imaginez qu'il y en avait un qui est là et il y a l'autre qui est là. Et donc il y en a qui tourne dans un sens et l'autre dans l'autre sens. Ce qui fait une espèce de spirale, de double spirale, comme ça. Vous voyez, je dessine comme ça. Donc ce sont des, bah, on va dire, des vortex jumeaux. Bon, je ne vais pas aller quand même trop dans le détail, mais globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des vortex qui donc, vont expirer et des vortex qui vont inspirer. Donc il y a des vortex qui élèvent, on va dire, hein, alors que d'autres qui, bah, ils vous font descendre, on va dire, vers l'intérieur. Il y a donc aussi, selon les cas, on va dire, des vortex qui sont neutres, à énergie neutre, parce qu'un vortex tel que nous le regardons comme ça, nous avons l'impression qu'il n'y a qu'une seule spirale. En fait, dans la réalité, pour créer la réalité, et en fait, il y a une double spirale. C'est-à-dire qu'il y a une spirale dans un sens, il y a la contre-spirale. Simplement, c'est comme un masculin-féminin. Alors, vous avez un masculin-féminin, on va dire, en termes de mouvement entre le haut et le bas, mais vous en avez un entre l'intérieur et l'extérieur. En clair, eh bien, si vous voyez, par exemple, qui tourne dans ce sens-là, ça veut dire qu'il a la prédominance. C'est-à-dire, par exemple, le côté dextrogyre, c'est le côté masculin, va prendre, d'une certaine manière, de l'importance par rapport à l'autre. Mais si on prend à lévogyre, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est la partie féminine qui prend le dessus sur la partie masculine. Donc vous voyez que un vortex par lui-même est une entité androgyne. Et donc cette entité androgyne va fonctionner en fonction d'un autre mouvement qui est lui vertical. C'est entre un chaud-froid, entre un intérieur et un extérieur. Donc il va y avoir, selon les cas, eh bien, on va dire des formes d'énergie. Alors, on va voir ce qu'on appelle une énergie ascendante, une énergie descendante et aussi une énergie dite neutre. Donc, selon les vortex, selon leur configuration, selon, on va dire, un certain nombre de caractéristiques, eh bien, il peut être ascendant, descendant, neutre, lévogyre, dextrogyre. Vous voyez que, il peut avoir aussi un frère jumeau. Donc, vous voyez que le vortex, c'est pas juste un petit tourbillon qui tourne et qu'on se dit, ah non, non, je l'active ou je l'active pas. Sachez qu'il est toujours en mouvement. Car, ni plus ni moins, on peut dire qu'un vortex, c'est tout simplement un chakra. Et quand on dit un chakra, pour nos copains de l'invisible, ils appellent ça un soleil. Donc ce sont des milliers de soleils qui sont tout autour de la planète. Et c'est pour ça que si nous pouvions regarder la planète, mais sous l'œil, on va dire, énergétique, nous verrions, on va dire, plein de petits points lumineux. Alors vous imaginez bien qu'en fonction de l'état de destruction que nous faisons, on va dire, de la planète, eh bien ces petits points lumineux deviennent de plus en plus faiblards. Puisque on va dire, en coupant les fils d'énergie de la grille cristalline d'une certaine manière, eh bien, nous ne permettons plus l'alimentation. Et donc, ça serait comme si votre peau, eh bien, on va dire, commence à se rider, à vieillir, enfin, je ne sais pas comment dire, mais en fait, votre peau est en train de se dégrader totalement. Donc, vous imaginez que quand vous avez la peau qui commence à avoir des dégradations, généralement, ce n'est pas bon signe en termes de longévité. Voilà. Bon, maintenant, eh bien, on va passer un tout petit peu plus loin, puisque ça, c'est l'aspect, on va dire, énergétique de la grille cristalline. Et vous imaginez bien que si nous regardons le globe, par exemple le globe Urantia-Gaïa, eh bien il faut pouvoir aussi, on va dire, voyager. Donc vous allez avoir ce qu'on appelle des portails dimensionnels. Alors un portail dimensionnel, c'est tout simplement un autre pignon qui vient s'enclencher sur le premier et dont l'axe est tout simplement, au lieu d'être vertical, va se retrouver à l'horizontale. Alors comprenez bien que ici, si je représente la planète Terre, eh bien les vortex sont bien perpendiculaires à cette planète Terre. Mais la Terre, elle a aussi son axe. Donc vous voyez, tout est relatif. Hein, tout est relatif. Donc il faut comprendre ça. Hein. Donc toujours, ici, si le pignon ici, c'est un vortex, donc un pignon par exemple, qui est un axe vertical, eh bien le portail dimensionnel aura un axe vertical. Hein, comme s'il était sur un plan, hein, à l'horizontale. D'accord? Il est sur un plan. Il est dans le champ dit magnétique, hein, dans le côté féminin des choses. Donc c'est comme une couche qui enveloppe et vous voyagez dans cette couche. Donc c'est un voyage dimensionnel. Vous êtes dans la même dimension. Alors là je vous ai représenté l'axe, mais bon, les rotations, comme vous dites, tout dépend dans quel sens celui-là il tourne et inversement, hein, forcément. Voilà, donc ça c'est un portail. Hein, donc quand on parle de portail, moi j'ajoute le mot dimensionnel. Hein, parce que quand on parle d'un portail, c'est quelque chose qui permet de voyager dans la même dimension pour le cas courant, car il existe bien sûr des portails interdimensionnels. Alors, les portails interdimensionnels ont bien sûr une caractéristique évidente, c'est qu'ils sont là pour vous faire voyager dans les différentes couches des dimensions. C'est-à-dire que ici, si je dis un portail dimensionnel, quand les êtres de la nature veulent passer d'un endroit à un autre endroit sur la planète, eh bien eux, comme ils sont en cinquième dimension, on va dire 5D6D, eh bien ils se déplacent dans la couche 5D6D. C'est comme des tunnels dans chaque couche. Vous avez des couches, hein, des épaisseurs, et un portail dimensionnel, ça vous permet de passer d'un point d'une couche à un autre point de cette même couche. C'est-à-dire que vous n'avez pas à faire des changements de fréquence au niveau de l'individu. Hein? Donc, ça, on va dire un transport horizontal. Si vous prenez le train, hein, vous prenez le train tout simplement, et vous êtes toujours sur une voie ferrée, et grosso modo, toujours globalement à la même altitude. Par contre, quand vous passez à un portail interdimensionnel, eh bien, c'est comme un ascenseur. C'est-à-dire que là, c'est comme un avion. C'est-à-dire que vous commencez à rouler sur la piste d'atterrissage et puis, d'un seul coup, vous passez dans une autre dimension, c'est-à-dire que vous n'avez plus les pieds sur Terre. Et donc, à ce moment-là, vous êtes dans un élément, on va dire, dans une couche beaucoup plus légère. Et si vraiment vous continuez de monter, vous allez vous retrouver, on va dire, en apesanteur, en effet satellitaire, entre guillemets. Donc là, vous n'êtes plus du tout dans l'élément 3D basique classique. Donc vous imaginez que, bien sûr, faire un voyage interdimensionnel va demander des changements, on va dire, de fréquence. Alors dites-vous bien que si vous prenez un être de la nature vivant en 5D, 6D et vous voulez le transporter sur un vaisseau spatial qui se trouve par exemple en 10D, eh bien il va falloir qu'il ait des sas de décompression, hein, et pour pouvoir que son corps s'ajuste à ces différences vibratoires. Donc il en est de même, bien sûr, pour l'humain. C'est-à-dire, ne pensez pas que quand une soucoupe volante va venir, vous allez monter dedans, on va dire, en jeans et en petit polo, et dire, ah là, je vais aller voir, je vais aller me casser sur Mars ou ailleurs, parce que vous allez avoir effectivement des soucis. Donc, non seulement des soucis au niveau de votre corps, dans le sens que votre corps ne supportera pas la vibration de ces dimensions-là. Alors, vous allez dire, oui, mais même quand je vais sur Mars, oui, sur Mars, vous allez en 3D. 4D, parce que si vous allez à la surface de Mars, vous allez en 3D, 4D. Donc, globalement, vous pouvez mettre bien sûr la tenue de cosmonaute, hein, il la faut quand même, et vous découvrirez quand même qu'il y a des changements notoires et que votre corps ne réagira pas de la même manière. Ça, c'est déjà une chose. Mais si vous voulez faire un transport dit interdimensionnel, là, c'est déjà beaucoup plus délicat. Et donc, ceci a une importance capitale par rapport à la suite des événements, c'est-à-dire que quand il est dit qu'il sera fait selon votre fréquence, et pas seulement selon votre état d'être, mais aussi selon l'état de votre véhicule, s'il est apte ou pas à encaisser, on va dire, certaines vibrations. Donc, si vous avez une vibration de 3D, 4D, ne vous attendez pas à basculer en 9D, 10D, comme ça, et vous retrouver avec le même corps, la même chose. Non, pas du tout, puisque votre corps sera dans l'incapacité de tenir une énergie beaucoup plus haute en fréquence. En clair, eh bien, partout où ça coince, ça va péter tout simplement. Hein, donc, quand il y a des voyages interdimensionnels qui sont faits au niveau du corps physique, eh bien, et que ça n'a pas été maîtrisé, on appelle ça de l'autocombustion. C'est-à-dire que le corps se consume sur place, tout simplement. Hein, donc, si vous ne voulez pas vous consumer sur place, vaut mieux éviter de croire que les voyages interdimensionnels, vous le faites avec votre corps physique. Alors, pour faire comprendre aussi la chose, c'est que quand vous passez sur un portail interdimensionnel, c'est un ascenseur. Et donc autant un train qui est sur ou une voiture qui est sur la route, on va dire, elle demande une certaine énergie. Vous imaginez bien que dès qu'il faut prendre de l'altitude, il faut beaucoup plus d'énergie que cela. Et donc généralement, quand vous avez des portails interdimensionnels que moi je l'appelle portail, c'est parce que quand on dit portail, tout le monde dit ouais, portail dimensionnel, portail interdimensionnel, enfin tout le monde dit ouais, c'est un portail, mais il faut savoir faire une différence. Donc moi je prendrai dorénavant ce vocabulaire-là, hein, un portail, pour dire attention, là on change de dimension. Et donc là, eh bien généralement ils sont associés à minima à deux vortex. Donc vous pouvez imaginer que ces deux vortex, s'il y en a un qui commence à foirer, enfin disons qu'il se sent mal, eh bien ça ne marchera pas. Donc il faut que les deux vortex soient, on va dire, de même puissance et généralement bien alimentés, vous savez, comme une centrale électrique. Hein. Il faut que la grille cristalline qui soit autour soit relativement conséquente. Donc ces portails, on va dire, ces vortails sont plutôt situés, on va dire, généralement. Hein, je donne des grandes règles comme ça, sont plutôt situés dans des zones où il va y avoir, on va dire, quand même encore assez de nature, puisque il y a une relation directe. Vous savez, quand vous avez les pores de la peau, vous avez des poils généralement. Eh bien, les poils, c'est les forêts. Hein. Les poils de Maman Orontia s'appellent des arbres. Et donc, si vous êtes effectivement en plein désert, ça fonctionnera nettement moins bien que si vous êtes dans des zones où il y a des arbres. Alors bien sûr, plus les arbres, la couverture est importante et mieux ça vaudra, plus ils sont balèzes et costauds et mieux ça vaudra. Donc généralement, on trouvera des vortails beaucoup plus dans les régions, on va dire, montagneuses, puisque vous savez que quand il y a par exemple une montagne, ça fait comme un condensateur, c'est-à-dire l'énergie se condense au niveau de la montagne, c'est un cristal. Et donc si vous y rajoutez, on va dire, de la verdure dessus, eh bien ça redonne encore de la patate, et vous imaginez bien que si vous avez un vortex qui se situe au sommet, on va dire, d'une colline, d'une montagne, avec un autre vortex qui se situe sur une autre montagne à côté, et bien entre les deux, vous aurez une espèce, donc dans la vallée, si vous voulez, vous aurez une espèce de lentille interdimensionnelle qu'on appelle un vortail, et qui vous permettra, à ce moment-là, de pouvoir aller voyager dans d'autres dimensions. Alors, je vais donc rapporter par rapport à ce qui est connu. On va dire globalement du côté de chez nous, c'est l'aspect porte des étoiles. Donc là, attendez, je vais remettre un petit peu tout ça, on va resserrer tout ça. Voilà. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la porte des étoiles, ça fait partie du programme, on va dire, d'éducation de l'être humain. Parce que qui n'a pas entendu parler de la porte des étoiles, enfin de la série qui a duré très très longtemps. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ceci était surtout pour informer, enfin, inconsciemment les gens, pour pas qu'ils soient, on va dire, traumatisés. Donc, dans un premier temps, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces portes des étoiles sont effectivement des engrenages verticaux qui sont en fait ni plus ni moins un vortex, hein, perpendiculaire aux autres. Et ces vortex, eh bien, c'est ce qui vous permet de pouvoir aller voyager, puisque vous allez passer d'une dimension à une autre dimension, ou tout simplement voyager, on va dire, d'un coin du globe à un autre coin du globe. Donc vous imaginez qu'il y avait des portes. Alors ces portes sont pour nous invisibles, parce que quand vous voulez, par exemple, un être de la nature qui vit en 5D, 6D, veut se balader dans un autre coin, eh bien, il va faire la queue. C'est-à-dire qu'il va déjà demander l'autorisation de pouvoir de dire est-ce que je peux emprunter le transport en commun, est-ce que le conseil de la nature qui est autour où j'habite, est-ce qu'il me donne l'autorisation de le faire. Parce que imaginez bien que ici, ça demande de l'énergie pour que cela fonctionne, au même titre que les trains. Hein, c'est pas dire ah oui, moi je vais aller quelque part, alors il faut lancer la locomotive et puis je vais y aller. Non, il y a des heures, il y a des trajets, parce que, comme je vous rappelle, les vortex ne fonctionnent, ne donnent leur pleine puissance qu'en fonction, qu'on va dire, d'une différence de température, d'hygrométrie, s'il y a la Lune qui est là ou pas, enfin bref, il y a plein de paramètres. Donc il y a, on va dire, des heures favorites, il y a des moments favoris, il y a des périodes favorites. Et donc en fonction de ces, on va dire, mouvements naturels de l'énergie, eh bien il y aura, on va dire, des heures de transport qui seront données. Quand on dit qu'un TGV avec trois rames, avec trois wagons, eh bien ça sera tel jour. Vous savez, par exemple, je prends, quand on part de la région parisienne, il est évident que du vendredi midi au lundi matin, le nombre de rames ne s'est pas du tout fait le même. Donc en cours de semaine, vous allez avoir, on va dire, trois rames qui démarrent à 20h tous les soirs, mais quand c'est le vendredi soir où tout le monde veut rentrer à la maison, c'est pas trois rames qu'il faut mettre, il faut en mettre 15, quoi, parce qu'il y a beaucoup de circulation. Donc là, c'est la même chose, et ça demande donc une gestion. Donc, je rappelle que chaque fois qu'il y aura une porte, il y a forcément un gardien, hein, c'est-à-dire comme le chef de gare, quoi, hein, c'est-à-dire qu'il vérifiera si vous avez votre ticket, etc., etc. Donc, eh bien, ces gardiens s'appellent tout simplement les dragons. Donc, autant il y a des vortex, il y a des gardiens, c'est-à-dire des êtres de la nature qui sont là en tant que techniciens pour entretenir le vortex, hein, faire, on va dire, différents réglages, car croyez-moi, les vortex, c'est de la mécanique fine. Et ces êtres de la nature, eh bien, dès qu'il y a un portail dimensionnel qui lui est accolé, eh bien, il y a forcément un dragon. Il ne peut pas y avoir un portail dimensionnel sans qu'il y ait de dragons, c'est-à-dire de gardiens. Alors ces portails peuvent être, on va dire, temporaires ou permanents. Hein. Donc il y a, à certains endroits, il est possible de mettre un portail dimensionnel pour certaines raisons. Et là, eh bien, il faut qu'il y ait des, entre guillemets, des dragons techniciens qui viennent installer, on va dire, le nécessaire pour qu'un portail dimensionnel soit possible. Vous voyez, ça se fait pas tout seul. Hein. Faut pas croire que ça existe comme ça, et puis d'un claquement de doigts, on en fait ce qu'on veut. Ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie de la part des êtres de l'invisible, on va dire. Donc ici, eh bien, ces portes des étoiles que nous avons représentées dans cette série comme quelque chose de 3D existent véritablement, on va dire, dans toutes les dimensions. Alors nous n'en avons pas au niveau de la 3D 4D, hein, nous n'en avons pas de portes des étoiles à ce niveau-là, mais il faut savoir que du temps de l'Atlantide, eh bien, il y avait ceci. Ceci existait du temps de l'Atlantide, puisque autant il y avait la grille cristalline que nous connaissons, les grilles cristallines que nous connaissons aujourd'hui, puisque je rappelle qu'il y avait la grille cristalline de chez nous, il y a la grille cristalline intra-terrestre et il y a la grille cristalline galactique. Et puis on va dire même après extra-galactique. Donc ce sont des réseaux qui ont été, on va dire, coupés les uns des autres à une époque, et maintenant ils commencent à être reliés, on va dire, ça commence à se relier. Donc ce qui veut dire que maintenant, eh bien, il va être possible de faire des voyages dans l'intra-terre. Bien sûr, les voyageurs qu'il va falloir qu'ils montent dedans, c'est pas le touriste de base qui dit je vais prendre quelques photos et me mettre ça en souvenir. Ça marchera pas. Hein, c'est-à-dire que les voyages intraterrestres ne seront réservés qu'aux personnes désirant véritablement évoluer et apprendre des choses pour augmenter leur fréquence. Donc je ne vous dis pas concernant les voyages galactiques. Là, c'est encore une autre paire de manches, hein, comme on dit. Donc ne croyez pas que parce que vous êtes sur le chemin, que vous allez avoir des extraterrestres qui vont se pointer, ils vont dire allez, viens, on va aller faire un tour au café du coin là-bas. dans tel coin de la galaxie, ça ne marchera pas. Et si c'est le cas, dites-vous bien qu'il y a de fortes chances que ça ne soit pas les bons, comme on dit, hein. C'est-à-dire qu'ils vous embarquent, mais c'est pour autre chose, mais c'est pas pour vos beaux yeux, hein. Enfin bon, là aussi, il y a eu des séries concernant cela. Donc ici, eh bien, c'est cette espèce de bulle, vous savez, qui c'est à l'intérieur, on va dire, de cet anneau, parce que c'est le portail dimensionnel et elle fonctionne comme ça, eh bien effectivement, c'est comme une membrane qui vous porte dans une autre dimension. Donc vous avez ce genre de phénomène qui arrive, hein, qui est ni plus ni moins que le démarrage entre un monde et un autre monde. Hein, c'est-à-dire, ça serait comme la membrane qu'il y a par exemple ici au milieu de ce vortex, entre le chaud et le froid, c'est la membrane qu'il y a au milieu qui est là. Et donc, selon le mouvement que tu vas dans un sens ou tu vas dans l'autre, c'est soit tu arrives ou soit tu démarres, ça ne joue pas de la même manière. Donc, quand tu arrives, effectivement, ça amène de l'énergie de l'autre côté et ça y est, tu te retrouves devant. Et par contre, quand tu y vas, eh bien, tu traverses, hein, comme dans la série. Simplement, ce phénomène-là se passe dans l'autre dimension. Hein, donc, on ne le voit pas sur la photo, mais tu passes vraiment effectivement à travers. Donc, tout ça, ce n'est pas des conneries. Hein. Simplement, il y a eu on va dire, une certaine forme de confusion, mais ça, c'est normal, hein. C'est de la 3D. Il y a une confusion entre un portail dimensionnel et un portail. Hein, c'est-à-dire que, d'une certaine manière, quoique, ça dépend comment on regarde, on peut dire que la série Porte des Étoiles, s'y partait de la 3D 4D, arrivait forcément dans un truc de 3D 4D. Or, ce n'était pas possible jusqu'à récemment, puisque bah, la grille cristalline grandienne était coupée de la grille cristalline galactique. Donc il ne pouvait pas y avoir de balade, on va dire, dans la galaxie. Aujourd'hui, la donne est différente. Cependant, ces vortails, entre guillemets, ne seront d'abord sont dans la généralement très mal en point, pour la simple et bonne raison que, comme je vous dis, il faut quand même énormément de patates, déjà. Et donc, comme nous avons relativement détruit pas mal, il y en a beaucoup qui sont quasiment inopérationnels, hein, ils existent là, en tant que tels, mais les vortex sont incapables de pouvoir subvenir aux besoins énergétiques. Donc aujourd'hui, les vortails ne sont pas actifs, hein, il n'y en a aucun d'actif sur Terre, c'est ça qu'il faut déjà comprendre, mais qu'ils sont en train d'être restaurés. Et il faut comprendre que quand ces vortails seront restaurés, enfin ça va commencer à l'un après l'autre, on va dire, eh bien, ce qui va sortir de l'autre côté, ce sont nos frères, donc forcément galactiques. Donc, ce qui veut dire qu'il va falloir que, quand même, la notion de l'humain et sa notion qu'il a des extraterrestres et des frères de l'espace change un tout petit peu. Hein. Donc, imaginez bien que de l'autre côté, c'est la loi de l'un d'une certaine manière, et que vous n'allez pas, comme dans la porte des étoiles ici, aller dedans avec la Kalachnikov en bandoulière. Trois pétards et deux bombes, hein, ça passera pas. Le dragon ici, qui sont là, puisque bon, selon la taille, bien sûr, des portails, les dragons sont plus ou moins nombreux. Donc vous pouvez avoir, des fois, jusqu'à, bon, on a rencontré, jusqu'à pratiquement une douzaine de dragons à certaines portes. Donc quand vous avez 12 dragons, croyez-moi que si vous voulez passer en force, vous avez franchement aucune chance. Même avec un, vous n'avez aucune chance. Alors avec 12, voilà. Et donc ces portes sont surtout protégées, bien sûr, par rapport à tous les involuants. Parce que les involuants travaillent à tous les niveaux, dans toutes les dimensions, je vous signale. Hein. Ils ne sont pas seulement en 3D, 4D. Hein. D'ailleurs, si vous arrivez à choper un involuant en 3D, 4D, vous êtes doué. Hein. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ceci est vrai. Simplement, les conceptions que l'on a mis dessus sont un petit peu 3D, 4D quand même. Hein. Mais c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, la grille cristalline de la Terre a été donc maintenant de nouveau reconnectée avec celle de l'intra-Terre. Donc, il existe des endroits sur cette Terre où il y aura, on va dire, une autorisation de passage seulement pour les entités aptes à pouvoir, à être véritablement des élèves, puisque quand vous allez dans l'intra-terre, je vous signale que vous passez en 5D, 6D. Donc un certain nombre d'entre vous sont prévus pour aller visiter et aller s'instruire auprès des populations de la Gartha. C'est en votre cœur, c'est à vous de savoir, et vous serez dirigé en fonction de cela vers ces portes. Ensuite, eh bien, pour concernant les portes, on va dire galactiques, là c'est une autre paire de manches, c'est-à-dire que pour l'instant l'humanité n'est absolument pas au niveau pour pouvoir, on va dire, accepter de voir débarquer, on va dire, nos frères de l'espace. Donc c'est une autre paire de manches, donc ne rêvez pas pour l'instant. Sachez tout simplement que globalement, les extraterrestres qui se pointeront devant vous avec des soucoupes volantes, ne sont pas forcément ceux qui vous tendent les bras avec des raisons, on va dire, unificatrices. Hein, donc c'est pour ça beaucoup, 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 beaucoup de prudence et de discernement. Hein, écoutez votre petite voix et votre cœur parce que sinon, ben, vous allez vous faire bouffer comme du poulet rôti. Voilà, donc je crois que j'en ai assez dit maintenant concernant les vortex et les portails et les portails pour que vous ayez une idée vraiment plus précise à quoi servent les grilles cristallines. Voilà, donc je vous dis à la prochaine vidéo.